Ambiance Mistral. Mistral.
Il y a tout juste une semaine, le Cercle des Conteurs du Briançonnais organisait une balade contée le jeudi 24 juillet dans la forêt des Ailles. Une balade qui a réuni une trentaine de personnes, six conteurs et conteuses, une accordéoniste. Et donc pour nous raconter cette aventure, nous accueillons Jean-Yves Montalet du Cercle des Conteurs du Briançonnais. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour Marion.
Alors donc nous allons rapidement revenir sur cet événement qui clôt votre saison entre guillemets du Cercle des Conteurs du Briançonnais. Comment ça s'est passé déjà ?
Alors, depuis 2 ans, on a décidé de faire justement une balade contée accompagnée de spécialistes de la montagne et surtout de la forêt et de la faune. Et cette année, comme la dernière, on a eu le plaisir d'avoir Claude Rémy de Arnica Montana avec nous. L'année dernière, on avait Lucie Lombard de Forêt Alpine. Et puis, on a eu aussi le plaisir d'avoir, pendant la balade, Chloé Maheude, qui est éco-garde pour la forêt des Ailles, au-dessus de Villars-Saint-Pancras et aussi dans le Queyras. Et ça nous a fait plaisir de voir des gens, des spécialistes de la montagne qui aussi s'intéressent à cette façon de montrer les bois, montrer la faune, et sous forme de distraction, de contes liés à la forêt, aux oiseaux, aux animaux emblématiques, même s'ils ne sont plus là maintenant, comme l'ours.
Et justement, vous avez choisi des contes en fonction de ce territoire-là ?
Oui, alors bien sûr, les contes que l'on a choisis étaient orientés sur les arbres, les plantes et aussi la faune, enfin plutôt les oiseaux cette année. C'est-à-dire qu'il y a des oiseaux assez emblématiques de la forêt des Ailles, comme la chouette chevêchette, le pic noir, le piquet-pêche, etc.
Et ce sont des contes que vous avez écrits ou que vous avez repris ?
Alors, pour la plupart, ce sont des contes qui sont repris. Chacun organise la trajectoire de son conte en référence un peu au lieu où on va se produire. Et aussi, quelquefois, une conception complète de notre imagination qui flotte beaucoup dans ces moments-là parce que la forêt inspire de jour, de nuit, etc.
Et vous étiez 6 conteurs, il me semble ?
Oui, alors on était 6 conteurs-conteuses et on est accompagnés en musique par Cécile Vicary qui fait partie de notre troupe depuis des années et qui nous permet de mettre toujours ce côté musical à nos contes. Elle a même à un moment, comme on a eu 33 personnes, dont 7 ou 8 enfants. Et au moment du repas, elle a fait un petit cours sur l'accordéon aux enfants qui étaient d'ailleurs tellement intéressés qu'elle leur a fait pratiquer un peu l'accordéon comme ça pendant quelques instants. Voilà, c'était quelque chose qui n'avait pas été prévu, mais en fin de compte, qui a remis un peu d'idées dans cette balade contée. Quoi.
Puisque la balade contée que vous avez réalisée cette année était la même que celle de l'an dernier ou vous avez changé ?
Alors on a changé de lieu sans changer de forêt en réalité. C'est toujours la forêt des Ailles au-dessus du... L'année dernière, on a fait le tour du lac de l'Orserette. Et cette année, on est monté un peu plus haut pour arriver au village de l'Alpe. Et en face du village de l'Alpe, il y a un bois de pin-cimbreau, ce qui est assez beau et étonnant pour la plupart des gens qui nous accompagnaient. C'est de voir ces arbres comme habitant la roche. Donc, les arbres ont poussé dans un enchevêtrement de roches, etc. Ça marque beaucoup les gens qui voient ça, parce que on voit l'emprise de l'arbre est comme une association du minéral et du végétal. C'est assez beau.
Et pourquoi le bois des ailes ?
Alors, le bois des ailes, je vais dire rien que le mot. Le nom, les ailes. Une petite anecdote, il n'y a pas très longtemps, un touriste belge est passé, il m'a demandé « Savez-vous où est le bois des ailes ?» Ça m'avait assez amusé, mais je lui ai dit « Non, on dit les ailes. » Et avec l'accent belge, il m'a dit « Ah, excusez-moi.
» Et donc, pourquoi avoir choisi ce lieu-là pour faire vos balades comptées ?
Il y a une très grande richesse. Et Claude Rémy l'a bien expliqué, il y a une telle biodiversité dans cette forêt donc, qui dépend de la ville de Villars-Saint-Pancras, ou du village, qu'il y a matière à changer, même à faire plusieurs balades comptées à la suite. On a fait le lac, là on a fait le bois des Saint-Brou, mais il y a aussi, quand on arrive à Plomperon, donc c'est une grande surface, l'ancien dépôt glaciaire sûrement. Et au-dessus, il y a aussi le bois des Ailes, mais un autre aspect. Et là, il y a des pins cimbreaux qui ont 600 ou 700 ans. Quoi. Donc ils sont là aussi imprégnés dans la nature, mais surtout ces efforts que fait la nature du pin pour résister au froid, etc. Donc ils ont eux-mêmes une attitude de défense, quelque part. Et ça crée cette beauté de l'arbre qui se défend contre la nature, mais qui s'y installe. Et tous ces oiseaux qui se sont installés là parce qu'ils se trouvent des compléments. On sait très bien que la chouette chevêchette, qui est toute petite chouette, ne peut se loger que si les pics épêches ou les pics noirs font des trous dans les troncs d'arbres et elle se trouve un habitat naturel. C'est là qu'on se rend compte que tous les éléments de la nature ont besoin les uns des autres pour vivre et vivre leur vie. Ce qui est intéressant, c'est cette biodiversité dans la forêt des Ailes. Elle a été créée, maintenant ça fait une vingtaine d'années, je crois, un lieu Natura 2000.
Et pourquoi c'est important pour vous, en tant que conteur et conteuse, de réaliser des balades contées, donc de mêler cet univers-là, du conte, du récit, à cette nature et à la protection de la nature ?
Je pense que c'est l'attirance du groupe vis-à-vis de prendre corps en tant que conteur avec cette si belle nature qui nous en... Pourquoi ne pas en faire profiter les gens qui viennent dans la région ? D'ailleurs, ils étaient vraiment très intéressés par ce qui a été dit. Et au moment de la balade, moi étant de Villars, Saint-Pancras, je connais des choses. Et au fur et à mesure qu'on montait, entre les contes, on faisait des stations, on a fait 7 stations, on a dit 2 contes à chaque fois, on a fait un pique-nique en haut, et le parcours donne l'occasion justement de dire nos connaissances en même temps. Et c'est là qu'on voit l'intérêt des gens qui nous ont accompagnés à écouter et à enrichir un peu leurs connaissances aussi sur les arbres et sur la faune.
Parce que vous disiez que vous aviez eu 30 de personnes, plutôt des touristes, des personnes étrangères à ce territoire ?
Alors, je dirais qu'il y avait 1/3 de gens de la région, des connaissances qui sont toujours intéressés par cette activité de balade et de conte. Et puis à peu près les 2/3 de gens qui viennent d'ailleurs. Il y avait des gens qui venaient de la Bretagne, d'autres de la Savoie, d'autres de la région de Grenoble. Il y avait même un couple de Parisiens. Voilà.
Un peu de partout, alors. Peut-être voyez-vous une différence par rapport à l'année précédente, une évolution vis-à-vis de du nombre de personnes présentes ou vous, de votre préparation de la balade?
Alors, au niveau des personnes présentes, il y en avait plus que l'année dernière. L'année dernière, il y en avait 26. Là, on était à 33. Bon, c'est pas une histoire de chiffres, mais la diversité était plus importante cette année que l'an passé. On avait des familles des compteurs qui étaient venus l'année dernière, et là, il y a eu un remplacement par des gens venus d'ailleurs, en quelque sorte. Donc, pour nous, c'est une amélioration, parce que l'intérêt, c'est d'attirer des gens d'ailleurs, parce que les gens d'ici, ben, on a l'occasion de se produire tout le long de l'année en tant que compteur et en même temps, ça enrichit aussi la connaissance du patrimoine local.
Et donc, c'est un rendez-vous que vous aimeriez reconduire l'année prochaine ?
Alors, c'est l'envie, hein. Il n'y a pas de souci.
Donc, un rendez-vous qui sera sûrement reconduit l'année prochaine, l'été prochain. Entre-temps, vous aurez d'autres moments phares. On pourra y revenir à la rentrée, puisque là, il est temps d'être en vacances pour vous aussi.
Oui, c'est ça. On a quelques projets. C'est-à-dire que tous les ans, quand on recommence, on appelle nos ateliers, on va choisir un thème pour servir de support à l'année. L'année dernière, c'était les peintres et la peinture. Cette année, il y a des idées sur le tissage, la façon de tirer un fil pour tirer un compte. Enfin bon, il y a des choses comme ça. Et puis on va refaire un peu le programme de l'an passé dans les maisons de santé et puis dans les villages éventuellement. Voilà, et puis recommencer peut-être un peu plus de balades comptées. Et on a aussi d'aller un peu plus loin, jusque vers Saint-André, d'Embrun. On nous a sollicité pour, à la veille ou au lendemain du 11 novembre, de reprendre des contes qu'on avait créés pour le centenaire de la guerre de 14-18. On avait créé une vingtaine de contes qui se référaient à la guerre, mais avec un regard plus de la vie des gens par rapport à cette guerre. Comment les gens vivaient, comment pouvaient se créer des histoires autour de la difficulté que les gens avaient à vivre cette guerre de 14-18.
Donc un rendez-vous à suivre pour l'automne prochain, voilà. En plus de tous ceux que vous réalisez chaque année, puisque donc le Cercle des Conteurs du Briançonnais est une association, vous avez bien compris, de conteurs et conteuses, qui donc vont dans des, vous disiez, centres de santé régulièrement pour compter, mais aussi font des événements ponctuels comme cette balade contée qui a eu lieu cet été.
Et aussi dire des contes à la radio.
Et aussi dire des contes à la radio, tout à fait. Vous pouvez retrouver le Cercle des Conteurs du Briançonnais tous les derniers mercredis du mois à 18h10 sur Fréquence Mistral. Et cet été, c'est une sélection sur la thématique choisie de l'année, donc 2024-2025, peintre et peinture. Donc vous pouvez les retrouver sur le site internet de Fréquence Mistral, Briançon. Pour finir, Jean-Yves Montalet, ce petit temps de clôture de votre saison avec cette présentation de la balade contée, vous avez partagé un conte que vous avez adapté autour de cette balade contée. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ?
Avec plaisir. C'est parti d'une rencontre avec un tronc d'arbre. Et ce tronc d'arbre avait un aspect animal que j'ai baptisé le vieil ours du bois des ailes. En cette fin d'après-midi de juin, quand j'ai rencontré Vieil Ours, il s'est caché derrière un arbre, comme s'il ne voulait pas me voir. Et puis après un grognement préalable, pour montrer qui il était, il m'a dit « Je te connais, toi. Tu t'appelles Jean du bois des ailes. Tu racontes des histoires à s'endormir pour la nuit. » Même que les gens d'ici t'appellent gros menteur. Mais comment sais-tu ça, vieil ours ? Tu me parles d'aujourd'hui, alors que tu t'es endormi dans ces bois il y a 200 ans. Tu es conteur, mon ami. Les hommes ont besoin de rêves. Et tu sais les faire rêver. Alors, rêve à ton tour. Je me suis endormi sur un tapis de mousse entre deux pins cimbreaux. Pas très loin, un pic noir frappe à la porte de son garde-manger. Et le rêve est venu d'une histoire que je raconte quelquefois pendant les veillées. Il y a bien longtemps de cela, dans les années 800, l'évêque de Gap, Monseigneur Daret, revient de Rome, encore tout ému de sa rencontre avec le pape. Pour l'époque, son voyage dans une charrette tirée par deux bœufs est réputé comme confortable. Le col de Mont-Genèvre franchi, il se dit que dans deux jours, il sera à nouveau dans sa bonne ville de Gap. Arrivé à la hauteur du torrent de Boscodon et le traversant sur un pont branlant, là ou un peu plus haut, dans les années 1100, les moines ont construit une abbaye. Un énorme ours surgit, se jette sur un des bœufs et le dévore. Quoique contrarié, l'évêque ordonne immédiatement à l'ours de s'atteler à la place du bœuf qu'il a dévoré. L'autre bœuf, il faut le dire, avec un tel compagnon de travail, n'en menait pas large. Mais ils arrivèrent ainsi à l'évêché en cet étrange attelage. Quant à l'ours, il s'accommode fort bien de la nourriture servie dans l'étable, n'ayant plus à la chercher dans les bois. Au bout d'un certain temps, les Capensais se sont habitués à voir l'évêque promener l'ours au bout d'une laisse, comme s'il s'agissait d'un chien. Une stalle, un siège était même installé dans la cathédrale à la disposition de l'ours. Pour remercier l'évêque, les habitants lui offrirent un collier avec une médaille de cuivre portant l'inscription « En hommage des Capensais reconnaissants à Monseigneur Daret en l'an de grâce 812. » Mais le temps a passé et l'évêque, déjà bien vieux, est mort. Lors de son enterrement, l'ours suivait la procession et gémissait comme un enfant. Quand le tombeau fut refermé, l'ours partit et plus personne n'a entendu parler de lui. Quelques siècles plus tard, dans la forêt au-dessus du monastère, quelques moines sont en quête de plantes médicinales. Quand ils découvrent une grotte d'où s'écoule un petit ruisseau, et au fond, le squelette d'un ours portant un collier en cuivre, muni d'une médaille avec comme inscription « En hommage aux Capensais reconnaissants à Monseigneur Daret en l'an de grâce 812. » C'est ainsi que finit l'aventure de l'ours de Monseigneur Daret, et depuis ce jour, dans la forêt au-dessus de l'abbaye de Boscodon, on peut visiter ce site appelé la Fontaine de l'Ours. Quand je me suis réveillé, la nuit s'était installée. Vieil ours, ou son image, devant moi semblait dormir. Sans doute rêvait-il lui aussi. Pourquoi troubler son sommeil ? D'autres viendront dans le bois des ailes pour partager un rêve, leur rêve.
Voilà. Merci Jean-Yves Montalet.
Eh bien, merci Marion. Ça a été un plaisir de conter ou de raconter notre histoire.